Les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle émission cinéma de Fréquence 7, Les écrans suspendus. Vous le savez, nous vous présentons chaque semaine un film de cinéma qui sortira en salle dès que les salles de cinéma seront réouvertes. Nous l'espérons pour le mois de juillet. Alors, au programme cette semaine, nous avons le nouveau film de Yeon Sang-ho qui s'appelle Peninsula. C'est un film qui fait suite ou extension du Dernier Train pour Busan. Nous parlerons avec Olivier du cinéma coréen. Nous ferons un petit hommage à Michel Piccoli, même un grand hommage, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour revenir sur toute sa carrière, nous dirons quand même quelques mots et je vous présenterai le e-cinéma que nous avons mis en place au navire pour créer un lien à nouveau avec vous. Donc il y aura des séances qui seront programmées avec même des discussions à l'issue des séances. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans le détail. Donc bonjour Olivier.
Bonjour Cathy, bonjour Sylvain, notre réal.
Bonjour Olivier, bonjour Cathy.
Oui, bonjour Sylvain. Alors nous allons tout d'abord, avant de parler du film Peninsula, parler avec toi Olivier du cinéma coréen, ce qui fait un petit peu cette caractéristique, cette typicité.
Oui, moi je suis frappé pour avoir vu quelques opus coréens de ces toutes dernières années, de ce que le cinéma coréen paraissait comme une sorte de véritable phénomène. Et moi je renvoie ça à l'histoire de la péninsule coréenne. On sait qu'elle a été martyrisé par une guerre entre 1950 et 1953 qui a conduit à la partition entre une Corée du Nord et une Corée du Sud qui sont en regard l'une avec l'autre de manière tout à fait étonnante. On sait donc au Nord qu'on a une dictature familiale de couleur communiste dont on ne sait pas grand-chose, à part qu'elle est, du point de vue de la dictature, enfin, si ce n'était la souffrance des gens, on serait tenté de la comparer à une dictature d'un album de Tintin, quoi. On est dans une espèce de délire avec Kim Jong-un, là, qui arrive même à imposer sa coiffure aux hommes de sa nation. Enfin, je veux dire, les défilés militaires, les missiles intercontinentaux qui décollent, enfin, un truc de fou. Et en face, c'est le cas de le dire, on a la Corée du Sud qui, alors effectivement, nous apparaît sous des couleurs apparemment beaucoup plus sympathiques, mais qui, en fait, est une société, je dirais, à très haute tension sociale, sociétale, culturelle, hein, livrée à un libéralisme... néolibéralisme moderne avec effectivement bon c'est une société de contrôle hein, on voit comment ils ont géré la crise du Covid. Donc je pensais à cette société où par exemple bon moi je suis professeur, je frappais du nombre invraisemblable de suicides qu'on peut observer, constater en Corée du Sud, à cause de la, encore une fois, de la pression scolaire, professionnelle, sociale qui s'y exerce. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapport entre cette ambiance et les thèmes abordés par le cinéma coréen de ces dernières années. Hein. Je parle depuis 2000 jusqu'à 2000, donc aujourd'hui 2020, donc, hein. Et où on a souvent le thème d'une menace diffuse, invisible, surprenante et en même temps terrifique, qui correspond bien à ce qu'on connaît dans les films à thème de zombies, de vampires, d'épidémies, de pollution, dérive et au-delà, évidemment, des questions de complot, de faux semblants, de vérités cachées, enfin, etc. On évoquait ça avec Cathy hors antenne en préparant l'émission, mais quand on voit Burning, hein, inspiré des grands brûlés, là où effectivement quelqu'un met le feu à des granges de manière assez mystérieuse pour des motifs qu'on comprend pas bien. Mademoiselle de Park Chan-wook, qui est un thriller d'arnaqueur aussi préoccupant. On a Burning, c'est de Lee Chang-dong. On a JSA, Joint Security Area, qui se situe dans une zone où les Coréens du Sud et du Nord peuvent parfois s'entretenir, et qui est une zone surveillée jour et nuit. On est très souvent dans des ambiances de cet ordre, et de manière peut-être archétypale, je pense au très fameux Parasite de Bong Joon-ho, où finalement une famille est infectée d'une certaine manière par une autre famille dans le plus grand mystère et pour une issue on ne peut plus catastrophique. Alors je me demandais si finalement la Corée du Sud ne produisait pas ce cinéma en raison encore une fois de cette ambiance culturelle. Ce qui me fascine d'ailleurs, c'est que ce jeune cinéma coréen, on a là des réalisateurs qui ont entre 40 et 50 ans ou un peu plus, qui trouve un succès évidemment énorme en Europe avec la Palme à Cannes ou aux États-Unis. Je me demandais si il n'était pas révélateur finalement d'un état d'esprit qui devenait mondialisé en tous les cas au niveau des sociétés développées, comme si se développer, et malheureusement la crise que nous traversons semblerait presque le confirmer, comme si nous étions les victimes potentielles d'une espèce de paranoïa qui donnait envie aux cinéastes de rendre visible le danger invisible. Voilà. C'est un petit peu mon angle pour Peninsula en particulier, évidemment, et puis pour Dernier Train, pour Busan. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est effectivement bien vu. Donc, pour venir au film de Yeon Sang-ho, ce réalisateur, d'abord, lui, revient principalement du cinéma d'animation. Il a fondé son propre studio de cinéma d'animation. Et après trois courts-métrages et deux longs métrages d'animation, il va réaliser pour la première fois un film de fiction en 2016 qui va être présenté à Cannes en séance de minuit, bien sûr, puisque Zombie oblige. Dernier train pour Busan. Et ce film, alors évidemment, autant Parasite, c'est vraiment le film coréen qui a explosé au niveau mondial et qui a remporté un nombre de prix considérable et fini avec pratiquement 2 millions d'entrées, je pense, qui est incroyable. Donc, Dernier train pour Busan avait surpris le public français et mondial quand même, et il s'est imposé comme un vrai succès pour un film de zombies. Avec 300 000 entrées France, 100 millions de dollars de 100 000, oui, enfin bon, de énormément de dollars de recettes, je sais même plus. Ce qui est bien dans le cinéma coréen, dans ce cinéma-là en particulier, c'est que c'est des films de genre en effet et qu'ils savent mélanger différents genres, où il peut y avoir aussi de l'humour malgré le côté dramatique des choses qui se passent. Et là, c'est vraiment un film haletant, tendu, dynamique, dans lequel on s'ennuie pas une seconde. Donc on peut imaginer complètement que dans Peninsula, cette suite ou plutôt extension de Dernier train pour Busan, on aura le même effet, d'autant que autant Dernier train était confiné dans des espaces étroits, donc en l'occurrence un train, autant Peninsula va se permettre d'élargir considérablement l'action, puisqu'elle va être à plus grande échelle. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le film, cette fois, va partir de nouveaux personnages, avec un monde, une exploration d'un monde envahi par des morts vivants. Il s'agit d'un ancien soldat qui a réussi à s'échapper de la péninsule sud-coréenne qui a été infestée de zombies, doit retourner à Séoul pour une dernière mission, Séoul où évidemment le chaos règne et où les personnes non infectées sont livrées à elles-mêmes. Donc on est vraiment sur un monde post-apocalyptique. Le réalisateur ne cache pas s'être inspiré évidemment de réalisateurs tels que Romero, notamment avec Le Territoire des Morts, avec La Route de John Hillcoat, qui était adapté du roman évidemment éponyme de Cormac McCarthy, et également intéressant de Mad Max Fury Road. Voilà, on a un peu un panel de réalisateurs avec des images qui nous viennent et on peut tout à fait imaginer ce que Peninsula pourra être. Certainement un film plus sombre également, et où les combats seront sans doute sanglants et nombreux. Voilà ce que je peux vous dire sur le film. Au niveau du casting, c'est vrai que nous, on connaît moins, évidemment, les acteurs sud-coréens, évidemment, mais bon, on a des références, notamment le Yo Wong, qui était dans Le Jour d'après, Jour d'après, qui a influencé pas mal par Ozu, par Bresson, par Homer, bref. On a beaucoup de références dans le cinéma coréen, sud-coréen. Et c'est un cinéma. Alors nous avions au mois de janvier dernier avec un spécialiste du cinéma coréen, Kang Chang-il, que je salue. On ne sait jamais s'il nous écoute. Nous avions organisé un week-end dédié au cinéma coréen. Et évidemment, comme il y a beaucoup de films encore à vous faire découvrir, j'espère bien que nous pourrons en organiser un autre quand nous serons à nouveau ouverts. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps et que nous y tenions tous les deux, Olivier, je crois que tu veux dire un mot sur Michel Piccoli qui nous a quittés aujourd'hui.
Ouais, juste un petit. Moi, j'ai appris tout à l'heure la mort de Michel Piccoli, qui pour moi est une espèce de monstre sacré. J'avais juste envie comme ça de d'y faire une petite allusion, un petit hommage. Enfin, un petit hommage, c'est beaucoup dire. Je sais pas qui je suis pour donner un hommage à Michel Piccoli. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il a accompagné toute ma culture cinématographique depuis que j'ai 10 ans, avec des films de Sauté, etc., ou de Marco Ferreri, jusqu'à Adeus Papam, qui était absolument de Moretti, hein. Absolument fabuleux, voilà. Donc je pense que Cathy doit grosso modo être d'accord avec moi, quoi.
Je peux dire que c'est effectivement un grand acteur de théâtre et de cinéma, un homme discret, juste, et qui a tourné évidemment avec les plus grands. Et moi, j'ai vraiment une nostalgie, parce qu'on n'en fait plus des films comme ça, mais les films de Claude Sauté, on peut citer évidemment Vincent, François, Paul et les autres, Max et les Ferrailleurs, Les Choses de la Vie, etc. Mmh. Voilà, effectivement. C'est un petit hommage, trop petit, mais que nous tenions à faire, Olivier et moi, à Michel Piccoli.
Ouais.
Et puis, vous dire un mot des séances e-cinéma que nous mettons en place avec la salle de cinéma virtuelle, en fait, la 25e heure, qui démarrera à partir de mercredi. Chaque semaine, il y aura une programmation spécifique, donc une programmation alternative. Vous allez pouvoir trouver des films pour les grands, pour les petits, avec certaines séances événements où le réalisateur, réalisatrice ou scénariste pourront intervenir à l'issue des séances avec une possibilité de discuter avec eux par chat. Alors, tout Ça, c'est très simple. Il suffit de se connecter à la 25e heure. En fait, en géolocalisation, vous allez être raccordé au cinéma Le Navire si vous habitez tout proche. Il faudra juste choisir le film, sélectionner le film et acheter son billet qui est de 5 à 6,50 € environ la séance. Et toutes les infos sont sur la page Facebook et sur le site internet du cinéma Le Navire.
Cool.
Et voilà, ça c'est important parce que c'est nous, voilà, on voulait garder le lien entre ben, les petits distributeurs et les spectateurs en attendant que cette crise soit finie. Et pour finir, donc je rebondis sur le mot, nous aborderons la semaine prochaine le film très attendu de Wes Anderson qui s'appelle The French Dispatch et qui a été tourné en partie dans la jolie ville d'Angoulême.
Avec Bill Murray.
Oui, avec des acteurs fétiches de Wes Anderson et des nouveaux. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Merci, Sylvain.
Merci à toi, Cathy.
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.